Lettre de Platon. Traduction Victor Cousin. Œuvre de Platon, traduite par Victor Cousin. Tome 13e. Lettre de Platon, note. Lettre 3. Platon à Denis. Tu me demandes si je ne ferais pas mieux de me servir au commencement de mes lettres de la formule ordinaire « Sois heureux » au lieu de celle-ci « Bonheur et sagesse » que j'ai l'habitude d'employer pour saluer mes amis quand je leur écris. Ceux qui t'accompagnaient à Delphes disent même que tu as fait usage de la première en t'adressant aux dieux et que tu as ordonné de graver dans son temple cette inscription « Sois heureux et conserve-moi la vie joyeuse d'un tyran ». Pour moi, je ne voudrais pas même faire un pareil compliment à un homme, loin de l'adresser à un dieu. Il ne convient pas à un dieu, parce qu'il répugne à sa nature, car un dieu ne saurait éprouver ni peine ni plaisir. Il ne convient pas à un homme, parce que le plaisir cause souvent autant de mal que la douleur, car il fait naître dans l'âme l'indocilité à l'étude, l'oubli, l'égarement et la violence. En voilà assez sur les compliments. Tu te serviras de la formule qui te conviendra le mieux. Il m'est revenu de plusieurs côtés que tu disais souvent aux envoyés qui sont auprès de toi que tu avais eu le dessein de rétablir les villes grecques de Sicile et d'alléger le joug de Syracuse en substituant le gouvernement royal au gouvernement tyrannique, mais que je t'avais empêché d'accomplir ce projet malgré le vif désir que tu en avais, et qu'aujourd'hui j'enseigne à Dion les moyens d'exécuter ce que tu voulais faire, et que nous nous servons ainsi l'un et l'autre de tes propres idées, pour ruiner ton pouvoir. C'est à toi de juger si de pareils discours servent bien tes intérêts. Mais certes, tu es injuste envers moi en disant le contraire de la vérité. Philistide et bien d'autres m'ont assez calomnié auprès des mercenaires et du peuple de Syracuse. Je demeurais avec toi dans la citadelle. Cela seul a suffi à ceux qui étaient en dehors pour rejeter sur moi toutes les fautes de ton administration, parce qu'ils prétendaient que tu n'agissais que d'après mes conseils. Tu sais très bien que je me suis rarement mêlé aux affaires de mon plein gré. Encore, ne l'ai-je fait que dans le commencement, alors que j'espérais pouvoir être utile, et je me suis borné à donner quelques soins au préambule des lois. Et il en faut excepter ce qui a été ajouté par toi, ou quelque autre, car j'ai appris qu'on avait plus tard fait des interpolations. Elles ne manqueront pas de frapper ceux qui sont en état de reconnaître ma manière de penser et d'écrire. Je ne saurais donc être calomnié plus amèrement que je ne l'ai été auprès des Syracusains et auprès de tous ceux que ces discours ont trouvé crédules. Mais j'éprouve le besoin le plus pressant de me justifier contre la première accusation, et aussi contre cette dernière, qui est plus grave et plus odieuse. L'attaque est double. Il faut que je divise ma défense. Je démontrerai d'abord que j'ai toujours évité, comme je devais le faire, de prendre part aux affaires publiques. Et en second lieu, que jamais tu n'as trouvé dans mes conseils d'obstacles à ton projet de rétablir les villes grecques. Voici ma réponse sur le premier point. Je suis venu à Syracuse pour obéir à tes instances et à celles de Dion. Dion m'était depuis longtemps attaché par les liens de l'hospitalité. J'avais pour lui la plus grande estime. Il jouissait de cette maturité et de cette force de l'âge que le moindre bon sens reconnaît nécessaire à ceux qui veulent diriger des affaires aussi difficiles que les tiennes l'étaient alors. Toi, au contraire, tu étais dans la première jeunesse, sans aucune des connaissances dont tu avais besoin, et je ne t'avais jamais vu. Peu de temps après, par un malheur que je ne sais à qui attribuer, à un dieu, à un homme ou à la destinée, Dion fut exilé, et tu restas seul. Crois-tu qu'alors je pusse prendre part aux affaires quand j'étais privé de mon sage ami, et que je voyais l'imprudent qui était resté entouré d'une foule d'hommes corrompus et dominés par eux, tandis qu'ils croyaient leur commander? Dans de telles circonstances, quelle conduite fallait-il tenir? N'est-ce pas celle que j'ai tenue? je devais me retirer entièrement des affaires publiques pour échapper à la calomnie des envieux et travailler de tous mes efforts à te réconcilier avec Dion en faisant cesser la division qui vous tenait éloignés l'un de l'autre. Je te prends à témoin du zèle constant que j'ai mis dans cette entreprise. Enfin, nous convînmes que je retournerais dans ma patrie et que j'y resterais jusqu'à la fin de la guerre que tu avais commencée, mais qu'une fois la paix conclue, je reviendrais avec Dion à Syracuse quand tu nous appellerais. Voilà ce qui s'est passé pendant mon premier séjour à Syracuse, jusqu'à mon retour en Grèce. Lorsque ensuite la paix fut conclue, tu m'écrivis de revenir, non pas avec Dion, comme nous en étions convenus, mais seul, en me disant que tu l'appellerais plus tard. Cela m'empêcha de venir, et j'encourus le blâme de Dion, qui croyait plus raisonnable de partir et d'obéir à tes ordres. Un an après, tu m'envoyas une galère. Elle m'apportait de ta part des lettres, dont le principal objet paraissait être de me persuader que si je venais près de toi, les affaires de Dion prendraient la tournure que je désirais, mais que si je refusais plus longtemps, elles étaient perdues sans retour. Je rougis de dire ici combien de lettres arrivèrent d'Italie et de Sicile, de toi et de tant d'autres en ton nom, adressées à je ne sais combien de mes parents et de mes amis, et toutes me pressant avec instance de céder à tes vœux et de partir. Tous mes amis, et Dion le premier, furent d'avis que je devais m'embarquer sans délai. Je m'excusai sur mon âge, je voulus leur persuader que tu n'aurais pas la force de résister à ceux qui sèmeraient des calomnies contre moi et chercheraient à nous diviser. Car il y a longtemps que j'ai remarqué, et je remarque encore aujourd'hui, que les grandes fortunes, soit des monarques, soit des simples particuliers, nourrissent des troupeaux de calomniateurs, de flatteurs, de honteux et dangereux courtisans, d'autant plus nombreux que ces fortunes sont plus grandes. Il n'y a pas de plus redoutable malheur attaché à la richesse et à la puissance. Cependant, fermant les yeux sur toutes ces considérations, je résolus de partir, de peur que quelqu'un de mes amis n'eût à m'adresser le juste reproche d'avoir perdu ses affaires par ma pusillanimité quand je pouvais les sauver. Après mon arrivée, tu n'ignores pas tout ce qui s'est passé. D'abord, je demandais que, suivant la promesse que tu m'avais souvent renouvelée dans tes lettres, tu rappelasses Dion, et tu lui rendisses ton ancienne amitié. Plût à Dieu que tu eusses voulu suivre mes conseils, car si je ne me laisse point abuser par de faux pressentiments, tu aurais assuré ton bonheur, celui de Syracuse et de toute la Grèce. Je demandais ensuite que l'administration des biens de Dion fut confiée à ses parents et ôtée d'entre les mains des régisseurs que tu sais. Je voulais encore que la somme d'argent que tu avais coutume de lui faire passer tous les ans continuât à lui être envoyée, et que ma présence à Syracuse, loin de la faire réduire, t'engageât plutôt à l'augmenter. Ne pouvant rien obtenir, je me déterminai à me retirer. Mais tu m'invitas à rester encore une année en m'assurant que Dion ne perdrait rien de sa fortune, parce que tu lui en enverrais la moitié à Corinthe où il était, et que tu laisserais l'autre moitié à son fils. Je pourrais citer bien d'autres promesses que tu m'avais faites, et que tu n'as pas plus fidèlement gardées, mais il serait trop long de les rappeler. Tu as fait vendre tous les biens de Dion sans son consentement, que tu avais promis d'attendre, pour mettre le comble, ô homme admirable, à la vanité de toutes tes promesses, et par une manœuvre aussi déloyale que honteuse, aussi injuste qu'inutile, essayant de m'effrayer comme un homme qui aurait ignoré tout ce qui se passait, afin que je cessasse de réclamer l'envoi des biens de Dion à leur maître. Enfin, quand après l'exil d'Héraclide qui me parut injuste, comme à tous les Syracusains, je me joignis à Théodode et à Eurybe, pour te conjurer en sa faveur, saisissant cette occasion comme un excellent prétexte. Tu me reprochas de manquer de zèle pour tes intérêts, et de n'en montrer que pour Dion, ses parents et ses amis. Tu ajoutas que malgré l'accusation qui pesait sur Théodote et Héraclide, c'était assez qu'ils fussent les amis de Dion pour que je m'efforçasse, par tous les moyens, de leur procurer l'impunité. voilà quelle part j'ai prise à ton gouvernement. Et faut-il après cela t'étonner si mes dispositions ont changé à ton égard? J'aurais passé aux yeux des gens sensés pour un homme corrompu, si, ébloui par ta grandeur et ton pouvoir, j'avais trahi un ancien ami, un hôte réduit au malheur par toi seul, et pour tout dire, un homme qui ne te le cédait en rien, pour me ranger du côté de son persécuteur et me soumettre à ses caprices, évidemment sans autre motif que l'attrait de tes richesses. Car personne n'eût attribué mon changement à une autre cause. Tels sont les événements qui, grâce à toi, ont mis entre nous la défiance et la division. Mais je suis insensiblement arrivé à la seconde partie de mon apologie. Vois et examine avec soin si dans ce que je vais dire, je m'écarterai en rien de la vérité. Nous étions un jour dans ton jardin. Archidème et Aristocrite étaient présents, à peu près 20 jours avant mon départ de Syracuse, quand tu me dis ce que tu répètes aujourd'hui, que j'avais plus à cœur les intérêts d'Héraclide et de ses amis que les tiens. Ensuite, tu me demandas, en présence de ceux que j'ai nommés, si je me souvenais de t'avoir conseillé, dans les premiers temps de mon arrivée, de rétablir les villes grecques. Je te répondis que je me le rappelais parfaitement et que j'approuvais encore ce projet. Il faut le dire, Denis, à la suite de notre conversation, je te demandais si c'était là le seul conseil que tu eusses reçu de moi, et si je ne t'en avais pas donné d'autre. À ces paroles, entrant en fureur et dans l'intention de m'injurier, cette scène alors si vive n'est sans doute plus qu'un songe aujourd'hui pour toi. Tu me dis en riant aux éclats et en te moquant de moi, s'il m'en souvient, oui, tu m'ordonnais de faire ceci, de ne pas m'occuper de cela, comme à un écolier. Je répondis que tu avais très bonne mémoire. Et tu ajoutas, comme un véritable écolier en géométrie, n'est-ce pas? Je retins la réponse que j'avais sur les lèvres, dans la crainte qu'un seul mot de plus ne m'ôta la liberté de partir que j'espérais obtenir. Mais j'arrive à la conclusion de tout ceci. Ne m'accuse pas de t'avoir empêché de rétablir les villes grecques ruinées par les barbares, et de substituer dans Syracuse la monarchie au gouvernement tyrannique. Tu ne pourrais avancer sur mon compte de mensonge qui fût plus contraire à mes principes. S'il y avait un tribunal compétent pour nous juger, je fournirai des preuves encore plus claires et plus convaincantes que je t'ai donné ce conseil, et que c'est toi qui as refusé de le suivre. Il était si aisé de démontrer jusqu'à l'évidence les grands avantages que l'exécution de ce dessein présentait pour toi, pour Syracuse et pour toute la Sicile. Si tu prétends n'avoir point tenu les discours que tu as véritablement tenus, j'ai de quoi te confondre. Si tu en conviens, tu n'as qu'à suivre le sage exemple de Stésichore dans sa Palinodie, note 5, et de faire succéder la vérité au mensonge.